Je te remercie pour ta participation aujourd'hui. On veut se mettre à l'écoute de la parole.
Bon, merci Seigneur. Je suis super heureux d'être là. Je ne suis pas super habitué à ne pas pouvoir vous voir. Peut-être au-dessus de 50 ans, on devient trop vieux. Et donc, si quelqu'un a une petite casquette, ça va peut-être m'aider. Je vous invite d'abord. J'espère que la plupart d'entre vous, vous avez suivi un peu cette série dans 1 Samuel. Donc, je ne vais pas vous expliquer tout le contexte de différents personnages, mais j'imagine que vous connaissez déjà David, vous connaissez Saül. Déjà, ce sont les deux personnages principaux, là où nous en sommes. Et là, on va parcourir ensemble 3 chapitres, donc 3 chapitres assez conséquents, mais on va tout surtout avoir le regard sur le chapitre 25 au milieu. Mais pour nous aider, on va d'abord, je ne sais pas aussi, à un moment donné, est-ce qu'il va y avoir sur l'écran un peu le plan ? Les points principaux, vous allez voir, donc ça c'est encourageant pour moi. Je pense qu'il y a une erreur dans l'un de ces points, mais on y arrivera lorsqu'on voit ça ensemble. Donc je vous invite, si moi je peux juste prier avant de commencer, je pense que ce serait utile pour moi. Donc prions, chers amis, ensemble. Merci Seigneur que ta parole est encore vérité. Merci que tu nous donnes ces histoires de l'Ancien Testament pour susciter en nous une foi qui se tourne vers toi. Et nous te prions, Seigneur, que tu glorifies ton nom à travers notre méditation ce matin de ta parole, que nous soyons ceux et celles qui mettent en pratique ce que toi, tu nous dis. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes dans 1 Samuel, donc 1 Samuel chapitre 24, pour commencer, et petit à petit, on va avancer. Peut-être vous savez que les Anglais sont, je suis d'origine britannique, un peu comme d'autres. Je suis aussi belge. J'habite juste ici, il y a 200 mètres. Et donc, si vous voulez venir manger à un moment donné, vous le pouvez, mais pas aujourd'hui parce qu'on a d'autres invités. Mais sachez que c'est pas loin. Alors, les Anglais apparemment sont à l'origine du sandwich. Est-ce que vous appréciez un sandwich de temps à autre? Je l'aime bien. Apparemment, il y avait un homme, un comte de sandwich, the Earl of Sandwich, qui aimait jouer au poker à un moment donné, et il commandait sa viande avec 2 tranches de pain à un moment donné, parce qu'il voulait juste continuer à jouer sans devoir s'arrêter. Et d'où vient apparemment le début du sandwich. Et donc voici la contribution britannique de l'excellence culinaire du monde. Ce n'est pas quelque chose dont nous sommes forcément fiers. Mais des sandwichs, il y en a également dans la Bible. Et ça, vous verrez, parce que le chapitre 24 que nous avons ce matin et le chapitre 26, c'est comme 2 tranches de pain. Ils se ressemblent. Le contexte pour nous aider, c'est David est le roi désigné par Dieu. Il est en fuite face aux attaques du tenant du titre, Saül, le roi qui cherche à supprimer David parce que Saül, il sait, de par le prophète Samuel, qui lui a dit ceci, que la couronne lui sera enlevée et donnée à sa place à David. Et donc, à 2 reprises, chapitre 25, chapitre 26, malgré sa fuite, David se trouve de manière inattendue dans une situation où il peut enfin prendre la vie de son adversaire. On va juste brièvement voir cela dans ces 2 chapitres. Okay? Donc, première tranche de pain, chapitre 24, verset 2 du chapitre 24. Donc, je lis, je pense, dans le second 21. Lorsque Saül fut de retour, après avoir poursuivi les Philistins, on vint lui dire, « David est dans le désert d'En-Gedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite choisis sur tout Israël, et il alla à la recherche de David et de ses hommes jusque sur les rochers des Bouquetins. Il arriva à des parcs à brebis qui étaient près du chemin. Là se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme tu le jugeras bon. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par enchant, qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par enchant. Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Donc ça, vous avez compris, il y avait une occasion en or, là, pour David de prendre le devant. Parce que Saül, au moment où il faisait ses besoins, était faible. Mais David résiste cette tentation. Plus tard, Saül, une fois qu'il a compris que David l'avait traité avec bonté, il dit ceci, verset 18 toujours, du chapitre 24. Il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, alors que moi, je t'ai fait du mal. Tu démontres aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et que tu m'as pas tué, tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Maintenant, je sais que tu régneras et que le royaume d'Israël tiendra solidement entre tes mains. » Donc, une reconnaissance, cette fois, de Saül par rapport au comportement de David. Maintenant, tu as cette première tranche de pain. On arrive au deuxième tranche en dessous, chapitre 26. Lorsque son camp était installé sur la colline de Hakila, verset 3 du chapitre 26, en face du désert de David, il de loin, il aperçoit David, Saül et ses hommes qui marchaient à sa poursuite une nouvelle fois. Il repère l'endroit où il y a le camp de Saül. Et maintenant, je lis à partir du verset 7 du chapitre 26. David et Abishai se rendirent de nuit vers la troupe. Entre dans le camp de Saül. Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fichée en terre. Près de sa tête, Abner et le reste de la troupe étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le frapper avec ma lance, je le clouerai à terre d'un seul coup. Je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. » Mais David a dit à Abishai, « Ne le supprime pas. En effet, qui pourrait impunément porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par ancien. » David ajouta, « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper. Soit que son jour soit venu et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y soit supprimé. Certes, par l'Éternel, je ne me risquerai pas à porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par ancien. Prends seulement la lance qui est près de sa tête, ainsi que la cruche d'eau et un en usant. » David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient près de la tête de Saül et s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla. Ils dormaient tous d'un profond sommeil, parce que l'Éternel les y avait plongés. Donc à deux occasions, 24 et 26, David aurait pu prendre la vie de Saül. Mais au lieu de faire cela, il amène avec lui chaque fois quelque chose que Saül, de Saül, qui donne la preuve à Saül qu'il avait la possibilité d'agir de la sorte et qu'il va présenter ces choses à Saül. Et je pense que nous savons de par notre propre expérience que si la même chose arrive deux fois sur nous, qui a des conséquences sur nous, à quel point c'est plus difficile de faire face à la deuxième occasion, n'est-ce pas? Prends un exemple bête, tu cuisines un grand repas pour accueillir l'ensemble de l'équipe de LifePoint à manger chez vous parce que vous venez de lancer l'invitation. Il y a un gros plat dans le four, vous sortez le truc, ça brûle un peu ta main, tu lâches par erreur, tout est par terre. C'est difficile, je dois ramasser tout. Je dois présenter mes excuses à mon épouse, etc. Ça prend du temps. Mais OK, ça arrive. Ensuite, je remets la chose dans la four, je prends la casserole au-dessus, et ça glisse dans ma main. Et la deuxième fois, alors à ce moment-là, c'est plus décourageant, n'est-ce pas? C'est plus difficile de garder son calme, de ne pas dire j'abandonne, jamais est-ce que j'inviterai les gens de LifePoint dans le futur. C'est beaucoup plus difficile. Et donc, lorsque David apprend une deuxième fois que Saül le poursuit, après que David, chapitre 24, lui ait fait grâce, après que Saül lui a même dit, on a vu ça, qu'il régnera David sur tout Israël, on admire, je pense, dans ce deuxième épisode, encore le courage et la patience de David. Ça fait preuve d'une foi grandissante de sa part, de la persévérance. Donc voici les deux morceaux de pain. Mais le fait de constater cela nous mène à la viande, à la garniture, au milieu, chapitre 25. Car c'est là, je pense, où David lui-même est interpellé par une femme extraordinaire, Abigail, l'épouse de Nabal. Je pense que l'auteur biblique permet la pause que représente, d'une certaine manière, le chapitre 25 dans ce récit pour nous aider à voir, de par ce qui a lieu dans le chapitre 25, comment David, lui, a pu grandir, lui, dans sa foi, dans sa compréhension de ce qu'il doit faire. Et donc, l'histoire du chapitre 25 démarre, comme vous voyez dans le texte, avec la mort du prophète Samuel. Samuel mourut, dit le premier verset. Samuel, donc, c'est le prophète qui a oint déjà Saül comme roi. Vous l'avez vu cela au chapitre 10. C'est lui aussi qui annonçait plus tard à Saül que puisque Saül avait rejeté la parole de Dieu, alors l'Éternel rejetait Saül, chapitre 15. C'est Samuel, au chapitre 16, ensuite, qui oint déjà David comme celui qui aura le trône après Saül. Et donc, étant donné le rôle majeur dans le livre jusque-là de Samuel, c'est pas étonnant que le texte continue au début du chapitre 25 en disant « Tout Israël se rassembla pour le pleurer et on l'enterra chez lui à Rama. » L'ombre, si vous voulez, de Samuel tombe sur l'ensemble de cet épisode encore à venir. Samuel avait pris la peine, lui, de rappeler au roi l'importance de l'obéissance au Seigneur. Et pendant cette période de transition entre Saül et David, qui deviendra, lui, roi à son tour, légitimement, je pense, nous posons la question, est-ce que David sera, pour finir, un roi différent de Saül? Ou est-ce que David deviendra lui aussi comme Saül? Parce que Saül a bien démarré aussi, n'est-ce pas? Et donc c'est cette histoire-ci, chapitre 25, qui permet à David de comprendre qu'il ne doit pas, lui, ressembler à Saül. Si l'histoire commence donc avec la mort de Samuel, l'histoire termine avec la mort de quelqu'un d'autre, Nabal. Alors qui est ce Nabal? Verset 2. Il y avait à Maon un homme très riche qui possédait des biens à Carmel. Il y avait 3000 brebis, 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Nabal, dit le verset 3, avait une femme qui s'appelait Abigail. C'était une femme pleine de bon sens et très belle. On aimerait bien que nos épouses soient toujours comme ça, n'est-ce pas? Tandis que son mari était dur et méchant dans sa manière d'agir. On aimerait bien que les maris de cette assemblée ne soient pas comme ça, chers amis. Donc, Samuel, sa mort, signalée au début du chapitre, c'était un sage. Nabal, lui, était fou. Et Abigail dit cela plus tard au verset 25, que mon Seigneur, elle parle à David, ne prête pas attention à ce méchant homme. C'est triste qu'elle doit parler comme ça par rapport à son mari, n'est-ce pas? À Nabal, car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal et il y a chez lui de la folie, parce que Nabal signifie fou. De la folie, parce qu'il s'est opposé à David, le roi désigné par Dieu. Et ça nous mène, enfin, chers amis, à notre premier point, que je pense que vous allez voir sur l'écran. Est-ce que quelqu'un peut m'assurer que c'est le cas? À la recherche du roi, la folie, et là, ici, mon erreur, à la recherche du roi, la folie ou la sagesse? Et pas la patience, la folie ou la sagesse. Nous avons deux façons de s'approcher du roi choisi par Dieu. Soit de la folie, soit de la sagesse. En lisant là maintenant à partir du verset 4 du chapitre 25. Vous êtes encore avec moi? Je ne vous vois pas, donc j'espère que oui. Chapitre 4. Alors qu'il était au désert, David apprit que Nabal tondait ses brebis. Il envoya 10 jeunes gens vers lui en leur ordonnant « Montez à Carmel et allez trouver Nabal. Vous le saluerez en mon nom et lui direz « Longue vie à toi, que la paix soit avec toi, avec ta famille, avec tout ce qui t'appartient. Maintenant, j'ai appris que tu as chez toi des tendeurs. Or, lorsque tes bergers étaient avec nous, nous ne leur avons fait aucun mal et rien ne leur a été volé durant tout le temps où ils étaient avec nous à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le confirmeront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main. » Lorsque les hommes de David furent arrivés, ils répétèrent toutes ces paroles à Nabal, au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Et je devrais prendre mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tendeurs pour les donner à des gens qui sortent je ne sais d'où. » Donc, ce n'est pas parce que nous sommes riches, comme Nabal était riche, que nous sommes à l'abri de la folie. Son problème, pourtant, n'est pas sa richesse en tant que telle, mais son attitude. Il est radin. Il est aussi fier de lui-même. Il est aussi orgueilleux devant ces hommes de David. Au verset 15, l'un des serviteurs de Nabal explique à Abigail que pendant le temps que les moutons de Nabal étaient dans la campagne avec ses serviteurs, David et ses hommes, au lieu de laisser les serviteurs et ses moutons à la merci des voleurs, dans le verset 16, ils nous ont nuit et jour servi de protection. Donc ils étaient fort utiles, ces hommes, envers Nabal. Donc lorsque David, au verset 4, envoie des hommes à Nabal au moment de l'attente de ses moutons pour que Nabal leur fasse un geste de reconnaissance, c'est pas comme si David cherchait à faire du racket. Non, la culture du jour dit que lorsque quelqu'un te fait un geste sympa, c'est d'office le cas que par courtoisie on cherche à répliquer ce geste semblable. Et voici, lorsqu'il y a donc des serviteurs, c'est la moindre chose de leur montrer de l'hospitalité. Ça signifie, petite parenthèse ici, que dans cette culture-là, il faut honorer des visiteurs avec estime, avec générosité. Et notre culture aujourd'hui ne fonctionne pas, en tout cas, peut-être pas la culture européenne ou belge ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Mais il y a encore des endroits dans le monde où c'est le cas que la culture est comme ça. Je pense qu'en partie, c'est l'une des raisons que nos frères et sœurs d'Afrique africains ont parfois une conception du temps plus fluide que nous, des Européens. Car l'hospitalité dit que si quelqu'un vous rend visite de manière imprévue, ou vous croisez même quelqu'un que vous connaissez dans la rue, vous ne pouvez pas simplement leur dire, comme nous, les Européens, « Oh, désolé, mes amis, mais j'ai un rendez-vous dans quelques secondes. Je vous salue, mais c'est tout. » Non, normalement, la culture dit que nous devons les accueillir. On doit leur accorder du respect, leur parler pendant un moment. Il faut leur donner du temps par simple courtoisie. Et donc, nous, les Européens, je pense, nous devons comprendre cela, car notre réaction, c'est souvent l'inverse. Nous avons peur d'être impolis, d'être en retard. Il faut respecter l'heure, n'est-ce pas? On est conscient par rapport à ça. Mais on ne comprend pas qu'il y a une autre façon aussi de voir comment la culture joue. Et donc, ici, c'est la moindre des choses pour Nabal de rendre quelques moutons à David. Comme signe de courtoisie, bien sûr, il doit le faire. Mais il ressent mal cette requête. On le voit d'ailleurs dans la même réaction de ses serviteurs avant d'entendre la réaction de Nabal lui-même. Au verset 9, lorsque les gens de David furent arrivés, ils, donc les serviteurs, parlèrent exactement ainsi à Nabal au nom de David. Puis ils se turent. Oui, ils se taisent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent bien ce maître. Fin du verset 17, le serviteur dit ceci à Abigail. Lui-même, donc Nabal, est méchant. Si méchant que nous n'osons pas lui parler. Cela ne sert à rien d'insister de trop, dit-il donc à Nabal, parce qu'il va simplement mal réagir. Encore aujourd'hui, la colère est souvent utilisée de cette manière-là. la colère peut devenir un moyen de manipuler les autres, à faire en sorte que les autres doivent se plier à notre volonté. Je n'ai pas ce que je veux, je monte le ton de mes propos pour que l'autre ne pose plus de questions, résiste plus à ma volonté. Pas de surprise, donc, Nabal répond au serviteur de David au verset 10. Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe, de Jessé? Implicitement, en fait, il sait très bien qui est David, parce qu'il sait qu'il est le fils d'Isaïe. Nabal l'insulte, donc en disant, il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Il est radin, il est indépendant et il est fier de l'être. Verset 11, si je devais prendre mon pain, mon eau, mon bétail, que j'ai tué et mon tendeur pour les donner à des gens qui sortent de je ne sais d'où. Lui pense être à l'abri de tout ce que David pourrait lui faire. Pour lui, David, c'est un pauvre réfugié qui se cache dans la campagne. Mais ô combien Nabal se trompe. Car David, nous l'avons vu déjà, est le roi désigné par Dieu. Et le texte confirme sa stupidité. Car que se passe-t-il ensuite? Verset 12, les hommes de David rebroussèrent chemin, ils repartirent et répétèrent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses hommes que chacun de vous prenne son épée. Et ils prirent chacun leur épée. David aussi prit la sienne et environ 400 hommes montèrent à sa suite, tandis que 200 restaient près du matériel. Ça fait enflammer une réaction colérique de la part de David face à ces insultes de Nabal. Et c'est à ce moment-là, les amis, que Abigail entre en jeu. Abigail, sa femme, qui comprend son erreur. Lorsque on lui raconte ce qui s'est passé, elle réagit vite avec du bon sens, si vous lisez la suite vous-même. Elle prend tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle peut, pardon, pour pouvoir aux besoins de David et de ses hommes. Et sans tarder ni consulter son mari, nous remarquons qu'elle va à l'encontre de David. Et lorsque elle voit David, elle tombe à ses pieds. Au verset 24, elle assume même la faute de son mari. « C'est ma faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles. » Verset 27, « Accepte ce cadeau que moi, ta servante, je t'apporte. À toi, mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux hommes qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne la faute de ta servante. En effet, l'Éternel accordera à mon Seigneur une maison stable, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. » Alors, quelle différence y a-t-il, Abigail, par rapport à Nabal? De manière assez remarquable, même, elle se projette, Abigail, dans l'avenir, lorsque le Seigneur, en 2 Samuel, donnera des promesses à David par rapport à sa descendance. Verset 29, « Si quelqu'un se dresse pour te poursuivre et en veut à ta vie, ton âme, mon Seigneur, sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. En revanche, il en verra loin, comme avec une fronde, l'âme de tes ennemis. » C'est-à-dire des gens comme Nabal. Elle sait, verset 30, que le Seigneur a promis même la royauté à David, qu'il sera chef sur Israël. Et donc, elle fait tout pour que David soit propice envers elle. Elle a compris que ce n'est pas sage de se retrouver du côté des ennemis de David. Cela, Nabal, évidemment, il découvre pour lui-même à la fin du verset 38. Environ 10 jours après verset 38, le Seigneur frappa Nabal et il mourut. Oui, c'est lui, le Seigneur, qui intervient dans cette histoire. C'est ce que David comprend également, puisque lorsqu'il apprend la nouvelle, dit verset 39, « Béni soit l'Éternel, il a défendu ma cause dans l'affront que m'a fait Nabal, il a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » Donc Abigail prend des mesures nécessaires pour tenter sa chance d'apaiser la colère de David. Alors nous voici avec deux approches, si vous voulez, à propos de ce roi choisi par Dieu. L'approche de Nabal, l'approche d'Abigail. Folie, sagesse. Et donc pour nous, ici, rassemblés ce matin en Belgique, à Bruxelles, en 2025, il n'est pas question de David, bien sûr, le roi désigné par Dieu, mais les questions du fils de David, le roi davidique par excellence, le Seigneur Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, nous pouvons remarquer que ces deux approches restent en vigueur, de la folie, de la sagesse. Beaucoup de ceux qui ne voient pas pourquoi aujourd'hui ils doivent réagir différemment par rapport à Jésus-Christ ont un raisonnement qui n'est pas fort différent que le raisonnement de Nabal. Puisons cela quelques instants. Certains ne croient pas que Jésus est si important aujourd'hui et ils diraient, mais Jésus, qui est-ce? Un charpentier israélite qui a vécu sur terre il y a plus de 2000 ans et veut me demander de me soumettre à lui. Il ose un tel homme réclamer mon obéissance. Non, merci. Mais évidemment, dans ce cas, une telle personne ignore que c'est Jésus, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus dont nous avons affaire, qui a vaincu la mort, qui règne aujourd'hui. D'autres personnes diront qu'ils sont trop indépendants, vous savez, pour que Jésus doit être mon maître. Jésus, oui, ordonne que nous nous renonçons à nous-mêmes si nous sommes ses disciples pour le suivre. Mais beaucoup aujourd'hui sont inconfortables avec cette idée de devoir suivre Jésus. Ça se heurte au principe un peu de ma liberté en tant qu'être humain. Mais cela cache la réalité que la liberté que beaucoup d'entre nous, nous cherchons, n'est pas la vraie liberté, vous savez. La liberté d'être comme notre Dieu a voulu et veut pour chacun d'entre nous. Non, la liberté de l'homme aujourd'hui devient souvent plutôt un esclavage. Parce que nous devenons esclaves à nos désirs, esclaves à nos idoles, de petits dieux que nous créons pour remplacer ce Dieu qui est là. Alors, prenons l'exemple de la personne qui consent de temps à autre de venir à l'église. Peut-être c'est même vu ce matin. Mais qui ne cherche pas à organiser leur vie autour de l'église locale. Fréquenter une église locale régulièrement, habituellement, fait partie de la volonté de Dieu pour son peuple. Le Nouveau Testament est très clair là-dessus. Mais beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, trouvent toujours des choses plus passionnantes à faire le dimanche matin ou le dimanche après-midi, si c'est ce moment-là où on se réunit. Pour ce type de personnes, le fait de devoir sacrifier ma liberté pour participer régulièrement à l'Église, au lieu de bénéficier d'une vie intéressante et passionnante que je peux avoir en dehors de l'Église, ben ici, beaucoup diront, ben, suivre Jésus comme ça, c'est un peu devoir être un peu à la lettre. C'est pas raisonnable. Rater l'Église de temps en temps, ben, c'est pas important pour une telle personne. Je reviendrai quand j'ai le temps, vous savez. Mais vouloir notre indépendance de Jésus et de ce qu'il nous dit, au lieu d'être réellement libre, nous devons plutôt esclaves de l'idole de nos désirs, de notre plaisir, de notre divertissement. Nous sacrifions tout pour que cette idole-là soit satisfaite. Mais nos idoles ne sont jamais satisfaites. Et lors du dernier jour, lorsque nous rencontrons Jésus-Christ dans toute sa gloire, combien ce serait stupide de dire « Ah, mais vous savez, il y avait encore un autre match de foot que je devais regarder à la télé. » Est-ce qu'on dirait « Mais qui est Jésus-Christ que je devais l'honorer avant toute chose ?» Non. On verra à quel point le Seigneur Jésus-Christ règne. Je pense que d'autres personnes sont encore trop fières, comme Nabal était fier. Abigail nous a montré que le seul moyen de nous approcher du roi désigné par Dieu, c'est comment? C'est à genoux. Nabal, lui, il tenait debout, fier de ce qu'il était. Jésus-Christ, le roi désigné par Dieu, il n'est pas impressionné par notre fierté, vous savez. J'étais une fois avec un homme lors d'un événement de notre église. Je lui ai dit que comment est-ce qu'il voyait un avenir s'il devait rencontrer Dieu sans être pardonné par Jésus-Christ. Vous savez comment il m'a répondu? Ah, j'ai pas de crainte, j'ai pas de souci. Moi et Jésus, on est sur le même rang. Qui est-il pour me dire ce que je dois faire? Et j'étais surpris d'une telle réaction, parce qu'une telle réaction n'est pas bonne. Mais nous ne devons pas avoir fierté non plus dans nos accomplissements religieux, chers amis, devant Dieu. Parce que là, maintenant, nous avons peut-être maintenant la personne entière qui dit, bah, vous savez, moi, ça fait 52 semaines sur 52 que je suis présent dans mon église locale. Ça doit compter pour quelque chose, non? Je peux être fier par rapport à toutes ces autres personnes qui ne sont pas suffisamment sérieuses. Non. Jésus fait grâce à ceux qui reconnaissent leur besoin de pardon. Donc, certains sont trop fiers, d'autres sont trop confortables. Nabal ne voyait pas besoin de David dans sa vie. Lui manquait la seule chose qu'il lui fallait, de reconnaître que Jésus, que David est le roi choisi par Dieu. Une relation rétablie avec le roi désigné par Dieu, c'est la seule chose qu'il nous faut. Ben, nous aussi, pendant un temps, tu peux sembler confortable dans notre vie, sans Dieu, sans Jésus, sans problème. Et ce confort peut nous rendre aveugles à notre besoin primordial de nous réconcilier avec le roi des rois. Donc, approchons-nous de Jésus avec sagesse et pas avec folie. Réconcilions-nous avec lui avant qu'il soit trop tard, comme c'était le cas pour Nabal. Alors ça, c'était notre premier point. Je pense que le deuxième point, ça va aller un peu plus vite. La vengeance ou la bonté. La vengeance ou la bonté. Deux façons de réagir face à l'injustice. Parce que nous voyons à quel point Abigail change aussi l'histoire de David. Verset 22. Que dit David? Que Dieu traite ton serviteur David avec la plus grande sévérité. Si je laisse en vie jusqu'au matin un seul homme parmi tous ceux qui appartiennent à Nabal. Donc là, on voit un trait de caractère de David qui n'était pas présent dans le chapitre 24. Pour maintenant ceux qui se rappellent de cela. Où David ne voulait même pas toucher Saül. Il savait qu'il ne devait pas poursuivre cette voie. Mais maintenant, c'est un autre David qui veut se venger. Oui, peut-être vous dites, c'est pas Saül ici dont nous avons affaire, c'est Nabal. C'est cet idiot-là, débarrassons-nous de lui. Ce serait bien, non? Mais en agissant de la sorte, David commence à ressembler à qui? À Saül. Car c'est Saül, souvenons-nous, peut-être vous avez vu cela, du chapitre 22, qui rasait l'entièreté de la ville de Nob lorsqu'il était fâché avec Ahimelech, le grand prêtre qui avait aidé David. Et maintenant, David veut se venger sur tous les hommes de Nabal. Mais Abigail intervient et que dit-elle au verset 31? Une fois qu'il est roi, mon Seigneur n'aura ni remords, ni trouble dans son cœur pour avoir versé le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Comment David réagit à cela? Verset 32, David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu ne t'étais pas dépêché de venir à ma rencontre, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici le matin. » Donc vous voyez, David a pu comprendre un principe qui se trouve déjà dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, nous lisons, « À moi la vengeance, dit le Seigneur. » David devait lui plutôt se confier au Seigneur, au lieu de poursuivre lui-même la vengeance. C'est un principe qu'il a appris, qui le sert lorsqu'il arrive au chapitre 26, où il est de nouveau bien placé, comme nous l'avons vu, pour prendre sa vengeance sur Saül. Mais il ne le fait pas. On fait un petit saut là, chapitre 26, verset 23. L'Éternel traitera chacun en fonction de sa justice et de sa fidélité. En effet, il t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur celui que l'Éternel a désigné par onction. Tout comme aujourd'hui, ta vie a eu beaucoup de valeur à mes yeux, ma vie aura beaucoup de valeur aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. David fait quoi? Il suit le chemin tracé pour lui par Dieu. Il ne saisit pas le royaume par la force. Il patiente, même si cela signifie de la souffrance pendant un temps. Et en ce faisant, bien sûr, David pointe de doigt le Seigneur Jésus-Christ, le fils de David. 1 Pierre, chapitre 2, peut-être si vous avez cela sous les yeux, ce serait utile. 1 Pierre 2, verset 23, parle de Jésus qui insultait, ne rendait pas l'insulte, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voyez, Jésus ne minimisait pas l'insulte, la moquerie, les menaces, les souffrances lorsqu'il allait jusqu'à la croix. Il ne dit pas que tout ça, ce n'est pas grave. Non, il sait que tous comparaîtront devant le tribunal un jour. La justice, il y aura de la part de Dieu. Mais Jésus sait en même temps qu'il n'est pas venu pendant sa première venue pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et donc, lui qui a lui-même porté, dit Pierre, toujours, porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. Ce n'est pas ces blessures que vous avez été guéris. Il se remettait à Dieu parce qu'il comprenait que la vengeance est à Dieu. David ne se ressemble pas donc pas à Saül, mais à Jésus. Et le Nouveau Testament nous invite nous aussi à ressembler à Jésus. Pierre dit le verset précédent, verset 21, « Parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissons un exemple afin que vous suiviez ses traces. » C'est ce que nous apprenons dans le Nouveau Testament, que la vengeance est à Dieu, ce n'est pas à nous. Romains 12, 17, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant les hommes, si cela est possible dans la mesure d'où cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Paul qui écrit ça, il sait que nous courons, même les croyants, de la Nouvelle Alliance, le danger encore de vouloir imposer notre propre justice. Et la vengeance aujourd'hui continue à prendre beaucoup de forme, même pour des croyants d'une église locale. Au sein de l'église, nous pouvons nous venger parce que nous nous sentons blessés par quelqu'un. Et comment est-ce que nous prenons notre vengeance? Par la silence, en boudant, en cherchant pas à parler à cette personne, en la punissant ainsi. Ou par peut-être des petites remarques cassantes au sujet de quelqu'un d'autre, qui remet la personne à sa place, fait comprendre que la personne nous a blessés. Ou peut-être parce que nous parlons derrière le dos de quelqu'un de notre église pour noircir sa réputation. Peut-être en rendant quelque chose public à des responsables ou à d'autres personnes trop vite, afin d'exposer la personne qui m'a blessé, au lieu de vouloir, dans la patience et dans l'amour, chercher à résoudre un problème face à face. Souviens toujours de cela dans mon église à moi. Il y avait un petit problème, quelqu'un n'était pas d'accord avec quelque chose que j'avais suggéré, mais ce n'était pas de l'ordre d'importance. Mais au lieu de m'en parler par rapport à ça, un email a été écrit à tous les responsables de l'Église, pour que je sois dénoncé. C'est une façon de pouvoir se venger. Qu'en est-il de ceux qui sont incapables d'accepter une critique sans vouloir se défendre? Quelqu'un te dit quelque chose? Peut-être tu le trouves un peu exagéré. Peut-être tu as du mal à comprendre pourquoi la personne le dit. Mais au lieu de pouvoir accepter la critique, bon, va sur l'attaque. Ah, ok. Si toi tu me dis ça, alors maintenant je vais te dire ce qui ne va pas chez toi. C'est la vengeance. Répondre peut-être juste trop vite, avec un ton sec, lorsqu'on se sent visé. Peut-être on peut avoir des personnes qui sont aussi fières de leurs propos qui blessent. Mais si ce que j'ai dit à blesser la personne, c'est pas mon problème à moi, c'est à eux de réagir comme eux ils veulent. C'est leur problème, ça. Non, c'est pas leur problème, c'est votre problème. Parce que vous avez parlé de façon à ce qu'ils ont mal réagi. Et il y a ceux aussi qui réagissent avec joie lorsque, lors de la chute de quelqu'un qui les a blessés par le passé, ils se disent, au moins dans leur cœur, ah, ils méritaient ça, n'est-ce pas? Différentes façons, encore aujourd'hui, de ressembler plutôt à Nabal ou à Saül plutôt que de se remettre à Dieu. De refléter notre roi, le Seigneur Jésus, qui se remettait à Dieu. Donc la vengeance ou la bonté, deux façons de réagir face à l'injustice. On termine. Comment est-ce que le chapitre 25 termine lorsque David apprend la mort de Nabal? C'est beau la fin, n'est-ce pas? Verset 39, David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Verset 40, les serviteurs de David arrivaient chez Abigail à Carmel. Ils lui dirent, « David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, « Voici ma servante. Voici moi, ta servante. Je serai une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Et donc, l'histoire termine avec Abigail, la personne la moins importante dans le chapitre. Pour commencer, il y avait Nabal, il y avait David. Son maître Nabal, le roi choisi par Dieu. Mais c'est qui fait la différence? C'est Abigail, cette femme sage qui répond comme il faut. Et ça me fait penser à la fin de 1 Pierre pour nous tous. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Patientons. Soyons prêts à accepter la souffrance pendant un temps. Parce que afin qu'il vous élève, au moment voulu. C'est ça qu'il fait pour Abigail. Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen.